Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jeudi Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous servir. Merci de votre fidélité. Comment protéger les droits des enfants accusés des sorcelleries? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Nous avons dans ces studios Monsieur Laurent Kidina Kizeza, qui est chef des divisions d'affaires sociales à la direction des interventions sociales pour la protection de l'enfant. Monsieur Kidina, bonjour.
Bonjour.
Merci de parler au micro. Bonjour et bienvenue dans cette émission.
Merci beaucoup, Jordi.
Voilà, il n'est pas seul dans ce studio. Nous avons également Madame Marie Pembe, qui est chef des divisions à la direction de la protection de l'enfant au ministère du Genre, Famille et Enfants. Madame Pembe, bonjour.
Bonjour Jordi.
Bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien. Et tout à l'heure, nous allons également recevoir le colonel Placide Kabeya, qui est commissaire supérieur, chef du département adjoint, chargé de la protection des enfants et protection contre les violences sexuelles au commissariat général de la police. Dans la deuxième partie de ce magazine, nous allons parler de la commémoration du génocide en République démocratique du Congo entre appropriation nationale et reconnaissance au niveau international. On en parle à partir de 11h05, heure de Kinshasa. Pour participer à cette émission, le standard est ouvert. Composez le 086-341-2871. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Sylvain Baoguere à la mise en onde. David Moussangou s'occupe des plateformes digitales de Radio Okapi. John Tshibwaboa coordonne et réalise cette émission. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Okapi, Metabendi Yamani.
Et oui, bienvenue à tous dans votre magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Les enfants mineurs sont souvent accusés à tort d'être la cause des malheurs familiaux, des maladies, des décès ou des difficultés financières. Cette stigmatisation entraîne généralement des graves violations de leurs droits parce qu'ils sont taxés d'enfants dits sorciers. C'est le cas par exemple d'un enfant d'une dizaine d'années qui a échappé en juillet dernier à une tentative de pendaison orchestrée par sa marâtre dans le territoire des Luisa au Kasaï central. Selon un acteur de la société civile locale, le garçon aurait été ligoté pour être pendu à la suite d'une prophétie attribuée à un pasteur d'une église locale, l'accusant de sorcellerie. Malgré les violences subies, l'enfant est parvenu à s'échapper et s'est rendu au poste de police, la police la plus proche, pour dénoncer les faits et trouver aussi protection. Alors comment lutter efficacement contre ce phénomène d'enfants dits sorciers qui occasionne des graves violations des droits de l'enfant? Madame Marie Pembe, je pense que c'est à vous que j'adresse cette question.
Oui.
Alors, dites-nous comment lutter efficacement. D'abord, cette histoire, quand vous l'avez apprise, quelle a été votre réaction de cet enfant du Kasaï central qui a failli être pendu par sa marâtre?
Oui, quand j'ai appris la situation de notre enfant qui a failli, qui a échappé vraiment de justesse, en tant que mère, ça m'a vraiment choquée. Et en tant que actrice, si je peux dire ainsi, du secteur de protection de l'enfant, je me dis que c'est un fait de trop. parce que il y a des témoignages par-ci par-là. Le phénomène perdure, et je me dis que c'est vraiment de trop. Ça ne peut plus être toléré, ça ne peut plus se passer ici en RDC, parce que tous les mécanismes sont mis en œuvre pour que les enfants soient réellement protégés. Et je dirais que on doit poursuivre la sensibilisation. Comme on dit que la répétition est la mère de la science, on doit continuer encore à sensibiliser la communauté, à sensibiliser les leaders, à sensibiliser les leaders communautaires, à sensibiliser les responsables des églises pour que réellement l'enfant, même si l'enfant a commis des faits, même si l'enfant a des comportements bizarres, mais qu'on n'en arrive pas à ces points-là.
Même s'il fait pipi aux lignes.
Exactement, faire pipi, ce n'est pas un problème. Ça se règle, ça dépend. Chaque enfant, selon son développement, il y en a qui cessent de faire pipi au lit à une année, à 5 ans, à 10 ans, il y en a même à 15 ans. Il faut accompagner ces enfants-là. C'est tout à fait normal et n'est pas indexé. L'enfant dit sorcier par le fait seulement de continuer à faire pipi au lit. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent occasionner. Ça peut être une maladie, on mange très tard, on boit beaucoup d'eau, ça peut être un stress. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Et on ne peut pas taxer un enfant par le fait seulement de continuer à faire pipi au lit. Même nous les adultes, quand on est gravement malade, on le voit dans les hôpitaux.
Oui.
C'est pas pour rien, il y a même des couches spéciales pour les adultes.
Les adultes.
Donc c'est
un fait. Ils deviennent pas pour autant des sorciers.
Ah, heureusement vous l'avez dit bien. Donc ce n'est pas vraiment ça qui justifie que l'enfant soit accusé
d'être des sorciers.
C'est vraiment un fait regrettable et intolérable qu'un pauvre enfant, au lieu d'être sécurisé, puisse être pendu. Et heureusement qu'à la dernière minute, il s'est échappé et il est allé à qui de droit, comme on dit, il est allé se réfugier auprès de la police pour sa protection.
Monsieur Kidine, comment vous avez réagi quand vous avez appris cette affaire-là?
Merci beaucoup, monsieur Jordi. Je m'excuse. C'est choquant quand on est parent et qu'on arrive à ce niveau-là, aller confier son enfant à un prétendu pasteur qui vous dit que non, ton fils, l'enfant que tu amènes, c'est un sorcier, parce qu'il fait pipi au lit. Ça, c'est grave.
Bon, j'ai pas dit que... ça, c'était juste un exemple.
Un exemple.
Bon, mais on ne sait pas quelles sont les vraies raisons, qu'est-ce qui se passe dans cette famille. On n'a pas toutes les informations.
D'abord, au départ, monsieur Jordi, quand on dit enfant, c'est toute personne, selon la loi portant protection de l'enfant, toute personne âgée de moins de 18 ans. Ça, c'est la loi. Donc, en dessous des 18 ans, on est en pleine croissance. On est en pleine croissance et l'enfant a besoin d'être accompagné par l'adulte qui connaît, qui comprend déjà ce que c'est la vie. Donc, c'était choquant. Et malgré que l'enfant est arrivé à s'échapper, je pense sa marâtre trouve que même le fait de s'échapper là,
donc elle va trouver d'autres moyens pour aller l'achever.
Merci beaucoup parce que la police est intervenue. Nous pensons que l'enfant est placé dans une structure qui prend soin de lui. Cette histoire de qualifier l'enfant dissocié parce qu'il a fait pipi au lit,
parce qu'il y a des problèmes dans la famille, il y a des décès, il y a des maladies.
Famille, papa a perdu l'emploi, qu'il y a beaucoup de cas de décès. On a eu un rêve, on a dit que cet enfant... Et on trouve des prophéties tout autour de ça pour mettre l'enfant sur les bancs des accusés.
Merci de parler au micro.
Oui, donc mettre l'enfant sur les bancs des accusés parce qu'il est sorcier. Non, ce n'est pas ça. Nous pensons que l'occasion que vous venez de nous donner, c'est une très belle occasion qui nous permet à sensibiliser la communauté, à parler à toute la communauté congolaise, pourquoi pas tous ceux qui peuvent nous suivre au-delà des frontières, que nous devons porter la protection. Nous devons protéger nos enfants. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière certaines raisons pour taxer nos enfants de sorciers. ce n'est pas bon.
Ce n'est pas bon.
Ce n'est pas bon.
Bien, Madame Marie Pembe, oui. Quels sont les droits de l'enfant? Nous avons une loi d'ailleurs. Qu'est-ce que cette loi stipule concrètement par rapport à la protection de l'enfant?
Oui, exactement. Nous avons une loi spécifique. La loi portant protection de l'enfant, ici en RDC, il y a beaucoup des innovations dans cette loi pour protéger l'enfant. On a eu d'abord au niveau international à ratifier des textes, la Convention relative aux droits de l'enfant et au niveau des Nations Unies. Et ensuite au niveau de l'Union africaine, nous avons la Charte du droit et du bien-être de l'enfant. Ces différents textes, nous devons harmoniser notre arsenal juridique par rapport aux différents textes régionaux et internationaux que nous avions ratifiés. Mmh. Et nous avons eu à élaborer la loi portant protection de l'enfant. Et je suis vraiment dans mon confort parce que j'ai vu comment est-ce qu'on a cheminé pour la rédaction de cette loi. Ça a pris autant de plus de 10 ans. On a eu affaire à interviewer les enfants. Il y a eu des enquêtes, des descentes sur terrain en ce temps-là, c'était les 11 provinces.
Oui.
Et toutes les spécialistes en la matière ont été à la table pour la rédaction. On avait des psychologues, on est pédagogues, on avait des enseignants, on avait des juristes, des formations. On avait vraiment des praticiens du droit de l'enfant, comme on dit, des travailleurs sociaux.
Oui.
Et nous avons eu à rédiger cette loi qui est une innovation et une fierté pour la RDC parce que ce n'est pas un secret, hein. Nous sommes des leaders en quelque sorte parce que ça a permis aux autres pays africains de s'inspirer de la loi.
Parce que la loi parle aussi de ces phénomènes enfants sorciers.
C'est parmi les innovations, comme j'ai dit, qu'il y a beaucoup des innovations dans cette loi parce que comme mon collègue, le chef de division, Laurent Kidina, vient de le dire, c'est tout enfant âgé de 0 à 18 ans. Et la loi spécifie même dans les aspects pénals, même avant la naissance de l'enfant. Il y a des protections, il y a même des sanctions pour ceux qui font atteinte à la vie de l'enfant. Mmh. Et parmi les droits de les innovations, il y a la qualification des enfants dits sorciers. Il y a des peines pour cela. On ne peut pas dire qu'un enfant est sorcier. Parce que un enfant, peu importe sa condition, peu importe sa vulnérabilité, cet enfant-là a besoin d'un encadrement pour son bon développement. Et il y a plusieurs droits qui doivent être mis en branle pour le bon développement de l'enfant. Nous voyons d'abord sur le plan de la santé. L'enfant a droit à une bonne santé, à l'alimentation, à un bon logement et au fur et à mesure, la scolarité. Au fur et à mesure, l'enfant a droit de parler. On doit écouter l'enfant. Parce que beaucoup sort de lui, nous croyons en tant qu'adultes, par expérience, nous étions maintes fois avec nos différents partenaires, étonnés même au niveau étatique, comment est-ce que nos enfants nous dépassent même en ce qui concerne et montrer leur point de vue. Mmh. Même les enfants dits en situation de rue que nous négligeons, mais quand on les fait intervenir pour certaines thématiques, mais c'est vraiment formidable. Mmh. C'est pour dire que les enfants, peu importe sa catégorie, peu importe sa vulnérabilité, c'est un être en devenir qui est utile pour le Congo de demain.
D'accord.
Et on ne doit pas le mettre de côté. Même les enfants surdoués.
Même les enfants surdoués.
Oui, ils sont souvent qualifiés de sorciers parce qu'ils sont trop intelligents.
Oui.
Alors que c'est tout à fait normal. Ce sont des catégories qu'on doit surveiller, accompagner pour avoir des savants, ceux qui vont innover demain dans tel ou tel autre secteur de la vie.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons du phénomène enfant sorcier, comment protéger les droits de l'enfant. Blaise Saïdi nous appelle depuis la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo. Monsieur Saïdi, bonjour. Merci d'ouvrir votre micro. Blaise Saïdi, bonjour.
Monsieur Jody.
On vous écoute.
Bonjour.
Bonjour, on vous écoute.
Oui, merci. Je salue aussi les invités. Voilà, merci de m'associer à cette thématique. Je salue aussi toute l'équipe qui vous accompagne au studio, particulièrement Esther Mambote, héros d'Alombre. Je compatis d'abord à cette triste nouvelle dans cette famille, puisque je le dis, vous allez comprendre que non, il y a les problèmes qui se passent beaucoup dans nos églises aujourd'hui. C'est plus les églises des réveils. La session, c'est plus aux églises des réveils. Donc, je crois bien que non, ce sont des positionnements pour mieux vivre que d'autres pasteurs qui n'ont pas de culture religieuse qui font de pareilles choses. puisque c'est pas facile de subir à cette histoire. Et je ne sais pas même si ce pasteur-là, si c'était son enfant légitime, si il allait faire tout ainsi. Néanmoins, je dois un peu aller tout juste à quelques questions aux invités, puisque comme ils sont deux, je dois faire les premières deux questions à chacun. La première question, quel est le rôle les églises et les responsables religieux devraient-ils assumer pour lutter efficacement contre les accusations de sorcellerie visant les enfants? C'est ça la première question. La deuxième question, quelles mesures ou sanctions devraient être appliquées aux personnes qui maltraitent ou violentent un enfant accusé de sorcellerie? Et troisième question, quel est le rôle du gouvernement et les organisations non gouvernementales devraient-ils jouer pour prévenir et protéger les enfants contre ces accusations? Et pour citer pour cette série de questions, comment peut-on sensibiliser efficacement les communautés en fait de réduire les croyances liées à la sorcellerie chez les enfants? Cher Jody, c'est violation des droits de l'homme, droits de l'enfant. Merci, je me limite à ce niveau-là.
Bien, merci Blaise Haïdi depuis Kisangani. Monsieur Laurent Kidina, qu'est-ce que vous pouvez dire à cet auditeur?
D'abord, je voulais réagir, c'est Laurent Kidinda.
Kidinda, ok, Kidinda. D'accord.
Voilà. Non, Kidina.
D'accord.
Merci beaucoup Jody, et merci à notre auditeur, monsieur Saïdi, que je salue de Kisangani. Quel rôle que doivent jouer les églises? Ça, c'est sa première question. Je pense que nous devons regarder nos églises. C'est vrai, quand on dit église, il y a église. Il y a des églises et des églises. Mais toutes elles sont des églises. Nous devons les sensibiliser. Les églises doivent être sensibilisées par rapport à cette question qui touche à l'enfant qui est qualifié du sorcier.
Donc déjà, ce ne sont pas toutes les églises qui
font ça. Ce ne sont pas toutes les églises. Et deux, c'est vrai, dans sa question, il a touché également quelle est la part de l'État dans tout ça. Mais nous pensons qu'il faut sensibiliser, avec la première question. Il faut sensibiliser les églises. Il y a ce qui touche à cette pastorale, parce qu'il n'a pas un boulot. Il touche à l'Évangile, parce qu'il trouve que c'est là où il peut trouver un pain. Il touche à l'église parce qu'il a été, pour essayer d'avoir une position dans la communauté, on fait une église. Et ce genre de vouloir aller dans la construction d'une église parce qu'il y a une certaine raison cachée derrière, ça nous amène à des pareilles cas.
Situation.
Oui, parce qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas formés, qui ne sont pas passés par la théologie, qui n'ont pas une taille intellectuelle, au point que quand ils s'élancent avec...
Ils font des dégâts, ils
font
séparent
des dégâts
les familles.
Dans la communauté, il n'a pas à respecter les familles, c'est lui ou rien. Et parce qu'il attend que telle famille ou telle personne lui amène des mabonza, il lui amène un peu tout ce qu'il a besoin, et pour aller plus loin, il fonce comme un buffle. Il vient, il divise même votre famille, parce que tel enfant est sorcier, tu as perdu l'emploi, viens donner un peu l'offrande, tu vas voir, il y a des prophéties, on a dit que...
C'est l'enfant là qui est le responsable.
L'enfant qui est dans la maison, que tu as fait venir du village, qui est ton neveu, c'est lui qui est sorcier. Donc, le rôle que nous...
Mais lui, le pasteur devrait savoir comment régler le problème, non? Parce que c'est auprès de lui que les parents viennent pour la solution.
Mais c'est Jordi, vous voyez, lui, le pasteur, son objectif, c'est de voir son église marcher. C'est de voir son église bouger. C'est de voir qu'il a une église qui fait des prophéties et qui lui rapporte quelque chose. C'est là son souci. Et quand vous lui dites non... Si vous devez aller dans la communauté, tous les pasteurs ne sont pas passés par les bancs de l'école.
Oui.
Et c'est très dangereux quand quelqu'un qui doit toucher à un livre qui s'appelle la Bible, quelqu'un qui n'est pas passé par l'école, il est devenu pasteur, il est devenu prophète parce que il a été. Donc ça pose problème avec la communauté. ça pose.
Est-ce que vous les sensibilisez? Il y a des sensibilisations qui sont prévues à l'égard des hommes d'église.
Bien sûr. Mm. Bien sûr, il y a des sensibilisations.
Madame Pembe, est-ce que ça se fait? Le ministère le fait déjà?
Oui, au niveau du ministère du genre famille et enfants, effectivement, nous avons l'habitude de dire que l'église est au milieu du village.
Oui.
Devant la détresse sociale, devant la pauvreté, les inquiétudes, le chômage, les difficultés de
vie. Problèmes sociaux.
Les problèmes sociaux en général, le commun des mortels a tendance à aller dans les spirituels pour trouver la paix, la quiétude, espérant un meilleur avenir. Et on va à l'église. Ces pasteurs-là ont un grand rôle à jouer pour la stabilité de la santé mentale, si je peux dire ainsi, des fidèles qui viennent auprès d'eux pour prier. Et dans cette mission-là, beaucoup sont en train de faillir, mais beaucoup aussi sont en train de travailler dans de bonnes conditions, puisque être berger, il faut conduire le troupeau vers le pâturage où le troupeau va grandir, va être en bonne santé. Donc la sensibilisation, comme je l'avais dit tantôt, doit continuer et cibler toutes les catégories. Pas seulement les hommes de Dieu, mais aussi la communauté en général. Parce que il y a la loi. La loi est là, la loi est dure, mais c'est la loi.
Est-ce qu'il y a déjà eu des sanctions des pasteurs, oui, des prophètes qui ont été sanctionnés?
Oui, il y a déjà eu, mais nous devons continuer encore dans la sensibilisation pour que la communauté arrive à dénoncer. Parce que s'il n'y a pas de dénonciation, la justice, les autres aspects de protection de l'enfant ne peuvent pas être mis en branle. Il faut que la population arrive à dénoncer, que ce soit les membres de la famille, que ce soit les membres de ces églises-là, qu'ils arrivent à dénoncer. C'est pas pour nuire au pasteur, mais c'est pour permettre au pasteur de revenir sur la bonne route, sur la bonne voie pour conduire correctement les brebis. Comme j'ai dit tantôt, le rôle du gouvernement, nous sommes des garde-fous dans la sensibilisation, la vulgarisation, pour que toute la communauté puisse protéger correctement les enfants, et en particulier les enfants dits sorciers. C'est pas pour rien que nous disons dits sorciers. Mmh. On ne dit pas les enfants sorciers, on les dit dits parce
sorciers.
Qu'on les a qualifiés de tels. Et le rôle du gouvernement est là. Les ONG, la société civile, sont les bras du gouvernement pour nous accompagner dans cette thématique, parce que eux, ils sont au vécu, ils sont sur terrain avec la population au jour le jour. Ils voient même pour les cas de Louisa, c'est la société civile qui a relayé l'information. Donc nous travaillons ensemble, le gouvernement et la société civile, pour la protection du droit de l'enfant. Et comment sensibiliser les communautés pour lutter contre les phénomènes? Il y a plusieurs manières de sensibiliser. On peut aller de porte à porte, on l'a fait avec les enfants d'ailleurs. On peut aller de porte à porte, on peut cibler des églises, on peut cibler des communautés, on peut cibler des universités. Donc il y a plusieurs stratégies pour que l'information, la bonne information, arrive auprès de nos compatriotes, pour que on ne parle plus de ces phénomènes. En tout cas, moi, ça me fait mal, ça me fait vraiment mal. C'est au contraire les adultes, la marâtre là, c'est vraiment elle qui est sorcière. Parce que les actes là, ce sont des actes cruels, ce sont des actes.
Parce que vous voulez tuer l'enfant, ça c'est.
Oui. Ni t'aider la dextérité de ces garçons là de
fuir. Qui s'est échappé, oui.
Il serait déjà sous terre au moment où nous parlons. Donc c'est plutôt nous les adultes qui violons le droit des enfants d'une manière ou d'une autre, au lieu de jouer le rôle des garants de protection de ces enfants là qui sont les devenirs de notre pays.
Nous parlons de la protection des droits des enfants accusés de sorcellerie. Nous avons l'honneur d'accueillir dans ce studio le colonel Placide Kabeya, commissaire supérieur chargé du département adjoint, chargé de la protection des enfants et protection contre les violences sexuelles au commissariat général de la police. Mon colonel, bonjour.
Bonjour, mon frère.
Bienvenue dans cette émission.
Merci.
Vous avez certainement suivi cette affaire d'un enfant à Louisa qui a failli être pendu, voilà, par sa marâtre, à cause d'une prophétie d'un pasteur qui a qualifié cet enfant de sorcier. Heureusement que le petit s'est échappé, il s'est présenté à la police pour dénoncer les faits et trouver protection. Comment vous avez réagi en apprenant cette affaire-là?
D'abord, féliciter le commandant qui a reçu l'enfant et qui a agi promptement afin de sécuriser l'enfant et en deuxième lieu de se saisir de la dame auteur de ces faits totalement répréhensibles. Nous faisons ces émissions, c'est essentiellement pour amener le message que la sorcellerie, accuser quelqu'un de sorcier, c'est porter atteinte non seulement à la personne, mais à sa famille et à sa communauté. Si vous dites d'une fillette qu'elle est sorcière, ça veut dire que même l'épouser devient un problème. Qui va prendre une sorcière à la maison? Personne.
Et quelles sont les preuves?
Justement. Justement, c'est à cause de ça que nous disons que ce sont des imputations totalement dommageables, pour lesquels la population doit prendre vraiment conscience que c'est extrêmement dangereux de porter sur soi cette responsabilité de nuire à une personne mineure qui n'a pas la réflexion et qui doit être protégée parce qu'elle n'est pas en période de réflexion pour agir. D'ailleurs, la preuve que tout ce que nous disons là est démenti, c'est l'arrivée à Kinshasa du service national pour lequel nous sommes tous pleins d'admiration. Ces enfants étaient devenus des Kuluna, mais ils sont devenus Kuluna parce qu'ils avaient été chassés des maisons des parents, chassés des maisons des parents parce qu'ils avaient été accusés de sorcellerie, et tout ça, on a mis sur le dos de ces enfants. Ils sont partis à Kanyama, ils nous sont revenus comme des héros. Ça veut dire que chacun doit prendre la mesure des moyens à mettre en œuvre pour sauvegarder la dignité, l'honneur de son enfant. Et même aujourd'hui,
j'imagine cette marâtre se dit souvent, c'est l'enfant de l'autre qui est parti, bon, qu'est-ce qu'il fait chez moi? Je dois le faire partir, le faire disparaître.
Évidemment, une mère ne perd rien du tout à élever un enfant. Rien du tout. Et d'ailleurs, les enfants qui ont été élevés par des personnes autres que leurs parents biologiques sont les plus reconnaissants. On voit ça tous les jours ici. L'enfant que vous avez mis au monde, quand il grandit, si c'est un garçon, il trouve une femme à ses goûts. Généralement, les parents sont mis un peu à rancard. Vous ne recevez plus le bonus et comme ça. Mais l'enfant qui a été élevé par une personne autre que sa mère est d'une reconnaissance incroyable.
Mais souvent, on dit que les marâtres maltraitent toujours.
Fort malheureusement.
Oui. Un instant, M. Kidinda, on va accueillir les auditeurs. Honoré Tiboabois nous appelle de Mbujimaï, Jeannot Louemboué de Kolwezi, Judith Badingisha de Lubumbashi, Joseph Kayembe depuis Kananga. Monsieur Honoré Tiboabois, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jody, bonjour aux invités. Vous m'écoutez?
Oui, on vous écoute. Quelle est votre préoccupation?
Voilà, je voulais un peu revenir un peu sur la situation des églises aujourd'hui. Il faut signaler que cette problématique par rapport aux églises, surtout nos églises des réveils, en tout cas, il faudrait que le ministère puisse quand même encadrer ces secteurs-là. Parce que vous voyez aujourd'hui comment est-ce que quelqu'un devient pasteur, il suffit de se réveiller un bon matin et dire que j'ai rêvé et du coup on devient pasteur. Alors le ministère de la Justice devrait quand même encadrer ces secteurs-là pour éviter quand même les pires, parce que la plupart de ces pasteurs-là, ce sont des gens qui ne sont pas instruits. Et l'autre problème aussi, je voulais dire que l'État devrait mettre quand même en place un mécanisme pour la sensibilisation, comme on venait de le dire, la dénonciation et aussi les sanctions. Et j'ai un peu des questions à poser aux invités, comme ils sont là à deux, les colonels et l'autre invité.
La première question.
Oui, quelle est la personne la mieux placée que les parents devraient en première intention consulter en cas d'une accusation de son enfant de sorcier? Parce que moi, je trouve que le pasteur n'est pas la personne la mieux placée pour être consulté, parce qu'il n'est pas instruit, il n'est pas psychologue, il n'a aucune matière à la matière.
Deuxième question.
Pourquoi est-ce que la police ne se saisit pas souvent de la situation lorsque dans nos communautés, les enfants sont accusés des sorciers. Parce que dans nos villages, on les voit toujours, les enfants sont accusés et sont maltraités, mais la police ou le ministère public ne se saisit pas de la situation quand même pour pouvoir donner de l'ordre. Merci beaucoup.
Merci Honoré Tiboaboa. Jeannot Louemboué, vous êtes à Kolwezi. Bonjour.
Monsieur Jeudi, je vous salue.
Oui, on vous écoute.
Oui, on vous écoute. Oui, je salue les invités, je vous remercie de la parole accordée. Hein. Bon, écoutez, c'est la deuxième fois qu'on revient à ce sujet, c'est-à-dire que ça a un impact dans la société. Moi, je comprends que dans la psychologie humaine, l'homme a peur de l'inconnu. Tout ce qui est inconnu à l'homme, l'homme en a peur. Et c'est fait que la sorcellerie également, puisqu'elle est spirituelle, elle fait peur à l'homme. Vous allez voir que ces gens de cas ne se trouvent que dans des familles pauvres où quelqu'un est en train de chercher le bouc émissaire qui m'a rendu pauvre, qui fait que je n'ai pas d'argent et qu'on sort. Et quand quelqu'un débarque pour essayer de pointer qu'un responsable, même étant enfant, on s'acharne sur celui-ci pour dire c'est toi qui fais que nous restions dans,
dans la pauvreté,
la stérilité, tout ça.
Oui.
Vous comprenez? On prend donc. On donne cette responsabilité innocente, d'une manière innocente, à l'autre là. Pourquoi? Parce qu'on a peur de demeurer dans la pauvreté, parce que personne n'aime la peur d'être pauvre. C'est commun ça. Alors on cherche un responsable qui pourra porter les chapeaux. Malheureusement, c'est toujours les enfants. De l'autre côté, nous avons cet autre... Il y a un auditeur qui... un invité qui a parlé de... manque de formation. Celui qui vous appelle Jordi, alors que vous êtes M. Jordi. Lui, il a corrigé aussi son nom. C'est M. Jordi. Alors, oui. Il a dit que la plupart de ces, entre guillemets, prophètes, pasteurs, ne sont pas formés. C'est en allant apprendre dans la théologie qu'on va vous dire, oui, les sorciers, le cas des sorcellerie existe, mais comment se comporter vis-à-vis d'un cas comme celui-ci pour ne pas déchirer, fractionner toute une famille. Soyez sages. Amener, commencer à traiter ces cas sans même chercher à peut-être dire cela aux parents. Vous étudiez un peu le comportement de la maman ou du papa en face. Vous dites, bon, si celui-ci, je lui disais que son enfant est sorcier, bien que ça soit vrai, ça risquerait de fractionner la famille. Oui. Nous allons gérer ça. Même dans des églises, je vais dire, autres, catholiques, méthodistes, ils connaissent ces cas, mais parce qu'ils sont instruits en amont, ils gèrent ça en interne sans chercher à éclabousser éclatant des familles comme ça. Donc, ce qui manque dans les chefs de ceux qui, entre guillemets, sont prophètes, c'est la sagesse. Et je reviens à ce que j'ai dit pour finir la fois passée. Comment les dieux des impossibles, des impossibilités, peuvent te donner la capacité de voir la sorcellerie et te refuser celle de délivrer la personne de cette sorcellerie-là. Ça, c'est quel Dieu-là qui te dit, bon, tel est sorcier, mais qui te refuse la capacité de délivrer. Voyez un peu comment on commence à se jouer avec Dieu. Donc, que les gens soient un peu plus sages, surtout les parents, pour éviter ces gens de tomber dans ces genres de... permettez l'expression, ces genres de bêtises.
D'accord.
Merci beaucoup, monsieur Judith.
Merci beaucoup, monsieur Jeannot Louemboué. Madame Judith Badinguisha, vous êtes à Lumbashi, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs. C'est pas facile de prendre la parole presque en dernière position parce que les précédentes interventions ont ramassé presque la moitié de ce que je voulais dire. Cela étant, il y a un souci majeur en rapport avec la gestion de l'enfant. Je compatis à ce que cet enfant de lui a vécu, mais la situation de l'enfant en général en République démocratique du Congo est vraiment précaire. Je voulais poser la question à madame l'invitée.
Madame Pembe.
Madame Pembe, merci. Est-ce qu'il y a un mécanisme pour pouvoir gérer les enfants qui sont en train de circuler ça et là, en train de vendre de la marchandise, notamment de la chicoire, notamment des bonbons, des biscuits, de cachemire ici à Lubumbashi, pour ne citer que ces cas? Au niveau de la poste, il y a un robot qui réduit la circulation, mais c'est devenu vraiment un dortoir pour les enfants de tout âge confondu. Et la majorité aussi de ces enfants, on les rencontre en train de vendre les sachets le market d'emballage et tout. Tous ces gens-là, tous ces jeunes gens, ils font semblant de vendre, mais lorsque vous n'étirez pas attention, ils peuvent vous ravir le téléphone, ils peuvent vous faire du mal. Est-ce qu'il y a un mécanisme, est-ce qu'il y a un projet en rapport avec la gestion de tous ces enfants-là? Ces mêmes enfants, on les rencontre à Kinshasa, précisément en face du palais du peuple. Vous allez trouver les gens qui ont des difficultés de voir. Ils se font accompagner des jeunes enfants qui pouvaient être à l'école, mais ces enfants-là, on les voit accompagner des grandes personnes pour quémander, pour faire des choses qui ne sont pas vraiment à leur âge. Mmh. Est-ce que aussi au ministère les ministères qui gèrent les personnes avec handicap, chez Madame Irène Issambo, est-ce qu'il n'y a pas un projet pour gérer ce genre de situation?
Merci.
Moi, personnellement, une fois que je ne fais pas ça,
merci,
ça me fait la honte de voir vraiment tous ces gens-là en train de demander et puis ils ne sont pas gérés par le pouvoir en place. Voilà, c'est beaucoup de choses à la fois, mais je ne peux pas quand même monopoliser la parole.
Merci madame.
De cet espace que vous nous offrez.
Merci Madame Judith Badingisha de Lubumbashi. Monsieur Joseph Kayembe, vous êtes à Kananga. Bonjour. Merci d'ouvrir votre micro, Monsieur Kayembe. Bonjour. Voilà, entre-temps, nous avons le message du pasteur Nestor Bitiasou à Bassoko. Il nous dit ceci, l'État et l'Église doivent se réunir ensemble pour lutter contre ce système et sensibiliser les parents à éviter les naissances désordonnées et la pauvreté, puisque cela est à la base de ces accusations des sorcelleries. Voilà, ça, c'est le pasteur Nestor Bitiasou depuis Bassoko. Monsieur Kayembe, bonjour.
Bonjour Monsieur Jedi.
Vous êtes à Kananga. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au phénomène enfants dits sorciers?
Merci beaucoup Monsieur Jedi Daniel Nkachama. J'aimerais poser une question à Monsieur l'invité. Parce qu'il y a beaucoup les enfants il y a beaucoup des enfants qui ne viennent pas travailler, bien qui ne comprennent pas les conseils de nos parents. Mais comment nous pouvons faire avec les enfants? Parce qu'il y a les enfants, les parents sont en train de parler. Non, maman, je ne comprends pas la conseil pour me dire là. Donc comment? Même dans notre famille ici, Il y a beaucoup les enfants qui ne comprennent pas. Il y a beaucoup les enfants qui ne comprennent pas. Sans sorcier, tous les jours à l'église, mais ils ne comprennent pas les conseils de nos parents. Qu'est-ce que nous avons faire avec les parents-là?
Merci. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Kidinda. À vous la parole.
Merci beaucoup. Vous savez, quand il y a la pauvreté, comme l'a dit notre auditeur, quand il y a la pauvreté qui, à un moment donné, ça fait basculer un ménage.
Et on tombe dans ce genre de situation.
On tombe dans ce genre de situation. Quand il y a l'ignorance, et quand il y a le divorce, et quand arrive le divorce ne dit pas que je suis arrivé dans une maison où les parents n'ont pas étudié. Le divorce peut arriver même dans une famille où les parents sont des intellectuels. Mais ce que nous parlons ici, c'est la conséquence par rapport aux enfants. Cette sensibilisation que nous sommes en train de mener, nous la menons pour que nous puissions remonter la compréhension de la communauté sur la protection de l'enfant. L'enfant, sa place, c'est dans la maison, c'est en famille. C'est ça la place de l'enfant.
Ce n'est pas dans la rue.
Ce n'est pas dans la rue. C'est vrai, j'ai suivi Madame Judith,
oui,
qui déplore les cas des enfants qui sont
à Lubumbashi, à Kinshasa aussi. Voilà.
Pour des raisons économiques, l'enfant peut vendre les bonbons, l'enfant peut vendre les biscuits, mais les parents...
Mais est-ce que sa place est dans la rue
pour
vendre?
Sa place n'est pas dans la rue, c'est là où nous parlons, c'est là où nous nous disons qu'il faut que les parents prennent leurs responsabilités. Il faut que les parents assument prennent les responsabilités. Aujourd'hui, nous avons la gratuité des renseignements. Donc, nous n'avons pas de raison à dire non, parce que je n'ai pas l'argent à payer à l'enfant qui doit partir à l'école.
Oui.
Bon, l'enfant à cet âge-là, sur la rue, avec des bonbons, avec des biscuits, même si c'est pour des raisons économiques, mais sa place, c'est en famille. Il faut que le papa prenne les responsabilités. Il faut que la maman assume. Vous avez eu des enfants, il faut assumer votre rôle. Il faut vraiment être responsable pour la vie de vos enfants.
Merci, Madame Pembe.
Oui, merci, Jody. Par rapport à la question de notre auditrice de Lubumbashi, Madame Judith, effectivement, la protection de l'enfant est multiforme. Nous avons l'habitude de dire que les questions de l'enfant se traitent de façon transversale. Il y a plusieurs acteurs qui mettent la main dans la pâte pour la protection de l'enfant. Et le gouvernement de la RDC, dans la spécificité de telle ou telle institution, il y a beaucoup des avancées, il y a des grandes choses qui sont faites, mais que peut-être la communauté n'arrive pas à saisir, vu par rapport à l'ampleur des problèmes, par rapport à tout ce que nous sommes en train de subir, le conflit des décennies, et vraiment ce qui fait la population n'arrive pas à saisir vraiment ce que le gouvernement de façon générale est en train de faire. Mais pour ce qui concerne les enfants vendeurs, je sais que il y a quelques années, au niveau de Kinshasa, les enfants des comités, parce que les enfants ont droit de parler, les enfants ont droit à la participation, et la loi même le permet. On a eu des comités d'enfants au niveau des écoles, au niveau des ONG, des orphelinats. Et il y a quelques années, les enfants de la ville de Kinshasa étaient allés même voir le bourgmestre dans le temps, pour ne pas citer son nom, le bourgmestre de la commune de la Gombe. Parce que les enfants étaient choqués. Eux, ils vont à l'école, mais ils voient leurs enfants, leurs collègues en train de conduire les adultes aveugles, en train de vendre.
Bon, ça fera l'objet d'une autre émission.
Ah, ok. Okay.
Aujourd'hui, on reste beaucoup plus dans le phénomène enfant dissorcier.
Oui. Ah, comme c'était l'auditrice qui en a posé la question.
Qu'elle se tranquillise, on reviendra là-dessus prochainement. Oui.
Oui, puisque l'enfant peut aider à des petits travaux, mais pas des travaux qui nuisent à sa santé, à son développement et à l'éducation. Aider à la maison des petits travaux, la vaisselle, la lessive.
D'abord, sa place est à l'école.
À l'école. Et ça ne va pas nuire à son éducation, à son instruction. C'est d'abord ça, le leitmotiv, comme on dit.
Mais pourquoi les marins, très souvent, ils agissent comme ça avec les enfants de la
rivale? L'un des auditeurs
de la rivale.
Que l'homme africain en général a peur, l'homme en général, mais spécialement l'Africain, a peur de l'inconnu. Et la vie, on est chaque fois buté à des difficultés, à des moments qu'on n'a pas prévus. L'inconnu nous brasse, si je peux dire, de temps en temps. Et nous, les adultes, au lieu de surmonter, au lieu de regarder en face l'inconnu là, qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment contourner la difficulté qui apparaît brusquement? Il y a eu licenciement, brusquement. Il y a eu une maladie, brusquement. On a mis au monde un enfant mal formé, brusquement. Devant cet inconnu là, nous, les adultes, nous péchons parce que nous regardons pas
Madame
en face
Pembe,
de ce problème.
Madame Pembe, si la prophétie avait détecté son propre enfant, l'enfant de cette dame, est-ce qu'elle allait agir de la même manière qu'elle a agi avec l'enfant de sa rivale ou
Je crois que probablement sa réaction aurait été un peu différée. Mais malheureusement, je parle en connaissance de cause, malheureusement, il y a même des mères biologiques, papa, maman biologiques qui chassent l'enfant. L'enfant se retrouve dans la rue. L'enfant, parce que eux-mêmes disent, avant même que l'Église, parce que c'est pourquoi j'ai dit que la sensibilisation cible toutes les tranches de la population. Avant même d'aller à l'Église, eux-mêmes, les acquis socioculturels font que, cet enfant, moi, nao, il faut azando, qui est. Mais c'est le papa et la maman indexent l'enfant directement et le mettent à la rue. Les parents ont un grand rôle, comme nous disions. La stabilité de la famille, c'est pas la communauté, le gouvernement est là, mais la stabilité de la famille, ça commence d'abord par le papa et la maman. Quand nous mettons au monde, peu importe, un enfant peut être turbulent, peu importe, un enfant peut être têtu. Il y a un interlocuteur qui en a parlé.
Qui dit que l'enfant ne comprend pas.
Ne comprend pas.
Oui, n'écoute pas ce qu'on lui dit.
Ah, c'est le développement, c'est la psychologie simple, c'est la croissance de l'enfant. Il y a, nous tous, comme nous sommes des adultes là, même vous, Jody, vous n'êtes pas comparable à moi. Premièrement, vous êtes un homme, moi je suis une femme. Il y a déjà une différence qui fait que nous appréhendons les choses un peu différemment.
Oui.
Et les enfants également. Mais eux, ils sont des vulnérables. Eux, ils ont un besoin de l'accompagnement, de l'attachement, de l'amour, de la compassion pour surmonter les petits défis qui incombent à leur niveau.
Bien, mon colonel Placide Kabeya, quelqu'un est revenu, je crois que c'est M. Chibowa, qui dit que le ministère de la justice devrait encadrer les pasteurs. Quelle est la personne la mieux placée auprès de qui les parents devraient consulter premièrement? Pourquoi la police ne se saisit pas de ce genre de cas?
Évidemment, la police se saisit. C'est un problème de dénonciation. L'émission de ce jour, la sensibilisation que nous sommes en train de faire, c'est pour mettre chacun devant ses propres responsabilités. Les parents doivent savoir que la place de l'enfant, c'est dans leur maison, pas dans la rue. Ni pour vendre, ni pour faire quoi que ce soit. L'enfant doit être à la maison et aller à l'école. Il y a même la loi portant protection de l'enfant qui a défini plusieurs catégories dans les enfants. Les enfants en situation difficile, les enfants en situation en contact avec la justice, c'est défini. Mais la loi dit que tous ces enfants-là, on ne doit pas les discriminer, on doit les protéger. Donc la police fait de son mieux et nous avons des détachements qu'on appelle des escadrons de protection de l'enfant et de prévention des violences sexuelles. Pratiquement toutes les provinces en ont. On est en train de descendre jusqu'au niveau des communes, des territoires, pour que cette justice, cette protection de l'enfant soit la plus rapprochée possible des enfants. Et comme la loi elle-même dit, l'enfant peut porter plainte. L'enfant est libre d'instrumenter contre quiconque porte atteinte à sa personne.
Parce généralement, ils ne le savent pas.
Ils ne savent pas.
Ils n'ont pas l'information.
C'est la raison de cette émission. Pour que, comme Radio Okapi touche pratiquement tout le pays, comme ça, au même moment, ceux de Mbujimayi doivent savoir que si tu accuses ton enfant de sorcier et que la police l'apprend, vous aurez à faire quelques jours dans la maison d'arrêt.
Est-ce que les voisins peuvent dénoncer?
Tout le monde.
L'entourage,
c'est
les gens qui sont au courant.
C'est ça, ce qu'on appelle la saisine. La plainte, c'est quand la personne elle-même se plaint. La dénonciation, c'est tout individu qui constate qu'il y a un comportement pas normal qui se passe dans son milieu. Il rapporte les faits auprès de la police pour que la police commence les investigations. D'abord, nous vérifions. Après vérification, si nous constatons qu'il y a des éléments probants, à ce moment-là, on invite les parties à venir se justifier. Et il y a les d'office. Donc, le policier qui se promène sur la voie publique, qui rencontre des enfants, devrait poser des questions par curiosité. Yo, combien on a balabala ndéguen? Oh, tenga bakangangando. Nanani. C'est vrai, yakana on a biro. La police, elle est accessible. C'est le problème que nous devons arriver à accepter que la police nationale congolaise est accessible. Elle est à la disposition du public congolais.
Et un instant, on va accueillir M. Timothée depuis le Mbashi. Bonjour. Monsieur Timothée, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Oui, on vous écoute.
Merci beaucoup. Je voulais juste intervenir. Je voulais juste intervenir sur le phénomène enfant sorcier.
Oui.
Allô?
Oui, allez-y.
Aïe, aïe, aïe.
On vous écoute.
Vous me recevez?
Oui, 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 5 sur 5.
Ah, je voulais juste intervenir sur, merci, sur l'enfant sorcier. Vous savez, la Bible nous dit, dans les derniers jours, il y aura des temps très difficiles. Hein. Les gens n'auront pas l'amour, tout ça. Pour être respecté dans la famille par les enfants et leur maman, il faut que tu donnes à manger chaque jour aux enfants. Aujourd'hui, les gens traitent les enfants sorciers pour rien. Moi, j'ai toujours pensé que ces gens-là, des pasteurs, il faut toujours commencer à les condamner. Parce que ces gens ont beaucoup abîmé les familles des gens. Alors, d'où ces gens-là, il faut commencer à les poursuivre même. Alors, je cite tout ça et tout ça. À l'époque de Jésus, quand Jésus rencontrait quelqu'un avec des esprits mauvais, Jésus chassait ces esprits-là et l'homme devenait normal. Mais aujourd'hui, il y a des sorciers, sorciers chassés, la foi, tout ce qui. Ça vient d'où? Mais ces gens-là, des pasteurs, moi j'ai toujours pensé que ce sont des kiosques qui sont en train d'ouvrir les magasins. Donnez l'eau, donnez ça, ça. Moi, je crois que vraiment, ce n'est pas une bonne chose. C'est ce que je voulais intervenir vraiment. Mmh. Merci.
Merci, M. Timothée. Elvis Londola, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Génie. Bonjour aussi à nos invités qui sont là.
Quelle est votre
question? Je voulais dire ceci seulement, parce que c'est la deuxième fois que nous revenions. Et aussi, la première fois, on avait toujours un officier de l'État. C'est dans ce sens-là, comme il venait aussi d'intervenir. Parce qu'auparavant, nous vous avons aussi dit ça. Auparavant, on le voyait. Auparavant, la police se menait, faisait des recherches. Hein, dans des églises, même dans des écoles. Il y a des fois, la police allait même jusqu'à l'école pour voir, même dans des ciné. Parce que moi, nous, on était à l'intérieur. Il y avait des ciné où peut-être de 6h à 12h, on ne peut pas trouver un enfant à dessiner à des endroits publics ou comme ça. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? C'est-à-dire que peut-être il y a un peu laissé aller, que nous voyons peut-être que l'État, je ne dis pas que l'État ne travaille plus, mais il n'arrive plus peut-être à répondre aux besoins. Peut-être ils attendent que la personne aille dénoncer. Alors qu'on dit que l'État,
merci,
le pouvoir public,
on a plus
le pouvoir public peut s'auto-saisir. Même si que quelqu'un n'aille pas dénoncer, il peut seulement constater les faits.
Le colonel l'a dit tout à l'heure. Allez-y rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
La première question, la dernière question, j'avais une question seulement que je voulais dire. Est-ce que les prophètes qui disent que les enfants sont des sorciers, qui causent leur sort, quelle est la leçon que l'État congolais peut se payer en service pour eux?
D'accord. Merci beaucoup, M. Laurent Kidinda.
Par rapport à la loi, je vois le colonel est en train de fouiller la loi.
Oui.
Mais moi, je voulais parler de la protection de l'enfant parce qu'il y a M. Kayembe qui a posé la question que quelle est la première personne à qui on peut s'adresser lorsque l'enfant est accusé de la sorcellerie. La première personne, je pense, c'est les parents lui-même. C'est les papas d'abord à la maison. On ne peut pas être papa, vous avez des enfants, et vous ne savez pas l'état de santé de tes enfants. Ces enfants qu'on acquise de la sorcellerie, il y a des enfants qui, une année, l'enfant n'a jamais été soigné des vers des intestinaux. L'enfant n'a jamais été soigné de la malaria. Donc, ce sont des cas qui peuvent arriver à l'enfant. La nuit, il peut.
Il peut faire pipi au lit.
Il peut se mettre debout, il marche avec la malaria. Il peut se mettre à parler.
Cela ne veut pas dire qu'il est en train de parler avec
des sorciers.
Les autres sorciers du quartier.
Non. Donc, c'est le papa à la maison qui doit assumer sa responsabilité.
D'accord. Et on n'a plus beaucoup de temps, il ne reste que deux minutes. Mon colonel, quelqu'un a dit tout à l'heure, si Dieu donne le pouvoir de détecter la sorcellerie, pourquoi il ne donne pas aussi le pouvoir de délivrer?
Je crois que c'est simplement des refus de responsabilité. Refuser. Quand quelqu'un ne veut pas être responsable, il met la responsabilité sur la tête de quelqu'un d'autre.
Bouc émissaire.
Le bouc émissaire. Et la loi est claire. C'est une année à trois années d'emprisonnement. Servitude pénale. C'est-à-dire, je ne vois pas d'autre explication. Quel que soit le milieu, quel que soit l'endroit, le Congo est un État démocratique, laïque et légal. Donc, l'accusation de sorcellerie est déjà comprise comme une imputation dommageable. Si c'est fait sur un enfant, c'est 1 à 3 années d'emprisonnement. Que les gens retiennent que tous ceux qui font cela, pasteurs, diacres, prophètes, votre prophétie va vous amener à la maison d'arrêt pendant 3 ans.
Mais il semble qu'il faut, c'est beaucoup, quelqu'un a parlé de l'amour. Pourquoi on ne montre pas beaucoup d'amour à ses enfants et l'amour peut guérir
la pauvreté n'a pas capacité d'aimer. Quand les gens n'ont l'amour, c'est donné. Quand on aime, on donne. Mais quand on n'a rien, on donne quoi? On donne
rien. Madame Pembe, en quelques secondes, qu'est-ce qu'on
retient? C'est vrai, ces enfants ont vraiment beaucoup besoin d'amour. Et comme c'est vraiment la sensibilisation, le colonel a martelé sur ça, des servitudes pénales, la prison.
La prison.
Pour tout, peu importe que vous soyez pasteur, même parent, même membre de la famille, voisin. C'est pourquoi nous insistons, l'Église et le gouvernement doivent être ensemble.
Merci beaucoup, Madame Pembe. On n'a plus beaucoup de temps. Nous disons merci à Monsieur Laura Kidinda. Merci à mon colonel Placide Kabeya. Madame Marie Pembe, merci. Et merci à toute l'équipe de l'UNPOL, la police des Nations Unies, pour l'organisation de cette émission. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.
Merci, merci à vous aussi.
Il est 11h à Kinshasa.